Bien. Alors pour ceux qui étaient venus, je sais que l'été était, cet été est particulier, comme tous les étés. Il y en a qui partent en vacances, il y en a qui déménagent, il y en a qui... on n'est pas toujours là au culte pendant l'été. Et je voudrais simplement faire un petit rappel sur, sur la manière dont le Seigneur conduit les choses actuellement. C'est vraiment important de le faire. D'accord ? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce qu'on peut remarquer dans nos discussions avec Jean-Luc, dans nos prières, dans les réunions de prière, c'est qu'en tout cas, depuis quelques mois, le Seigneur nous dirige particulièrement, vraiment, et dans une direction bien précise. Et c'est vraiment important que vous l'entendiez ce matin, pour aller plus loin. D'accord ? La première des choses, c'est qu'on s'est rendu compte... D'abord, que Dieu voulait qu'on prenne le temps de s'examiner et de faire la part des choses dans notre vie, dans notre cœur, au regard de sa parole et de son esprit, et d'être prêt à remettre des choses en question dans nos vies. Et la première des choses que Dieu demande à un disciple, c'est qu'il se repente. Repentez-vous et sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà ce que dit Pierre le jour de la Pentecôte. Et donc ça, c'était le sujet d'une première prédication. La deuxième prédication, et d'autres prédications, d'ailleurs elles allaient toutes dans le même sens, c'est que ma vie de disciple, quand je m'engage avec le Seigneur, en réalité, quand je nais de nouveau, ma vie ne peut pas être ce qu'elle a été dans le passé. Il y a des choses qui doivent changer. Et souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, en tout cas vous pouvez aller sur le site et regarder... et écouter ou écouter les messages, il y a un message qui disait que si rien ne change dans ma vie, je dois à un moment donné me poser une question. Ensuite, repentez-vous donc, engagez-vous. Il y a eu un message, je crois, au mois de juillet, où on s'était dit qu'on ne peut pas être disciple sans un engagement. Et que l'engagement numéro un dans la vie du disciple, c'était le baptême. Et que le baptême n'était pas juste un moment où je trempe dans l'eau et je ressors. Mais que derrière, ça m'engageait tous les jours de ma vie à suivre le Seigneur. Ensuite, le troisième thème, c'était que nous devions, et que lorsque Dieu vient nous chercher dans la boue du péché qu'il nous fait sortir, nous fait naître de nouveau après que nous soyons repentis et engagés, il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Et clairement, dans ces messages qui avaient été donnés, nous ne faisions pas de distinction entre la nouvelle naissance, on ne commençait pas à faire un débat théologique, parce que c'est ce que fait l'apôtre Paul en Actes 19, lorsqu'il voit ses disciples, il a dit, voilà, vous êtes-vous repentis ? Oui. Êtes-vous baptisés ? Non, nous sommes baptisés par le baptême de Jean. Ah ben ouais, mais attendez, il y a autre chose. Vous devez aller plus loin, vous devez vous engager avec Jésus. Et puis après, il leur dit, maintenant, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Il ne leur fait pas un débat théologique sur la nouvelle naissance. Lui, son but, repentez-vous et... changez de vie, engagez-vous par les eaux du baptême et maintenant soyez remplis de l'Esprit. Il ne passe pas par les détails théologiques. Et Dieu nous interpelle en tant que disciples à être aussi remplis de l'Esprit. Donc on a commencé quelques petites choses intéressantes dans nos réunions de prière à nous humilier vraiment, à faire ça. Et vous savez ce qui se passe encore. Jeudi soir, nous étions une dizaine de personnes à prier. Et une onction prophétique est descendue sur nous. Mais quand je dis une onction prophétique, c'était puissant. On pouvait palper la présence de Dieu. Et à un moment donné même, moi je l'ai vécu d'une manière personnelle, j'ai senti le Saint-Esprit me remplir tout à nouveau. Parce que les choses soient claires, il dit « Soyez remplis de l'Esprit », il ne leur dit pas « Avez-vous reçu le Saint-Esprit il y a 30 ans ?» Vous voyez, c'est à nous de jauger. Quand tu débordes, tu débordes. OK ? Quand tu débordes, tu débordes. Si tu es rempli à 99%, c'est pas ça être rempli. OK ? Quand Dieu nous prend et que nous devenons des disciples, il nous remplit. Voilà, donc ça c'était le troisième thème. Et puis, le thème de la semaine dernière, c'était qu'on ne pouvait pas être disciple sans être humble. Parce que l'orgueil nous conduit à la rébellion et à la désobéissance. C'était le thème de la semaine dernière. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, c'est que le disciple, et c'est extraordinaire comment d'ailleurs le Saint-Esprit est en train de conduire les choses au niveau des enseignements, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous dire une chose. Tu ne peux pas être disciple si tu n'es pas uni aux autres. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre leur foi seuls. Et vous savez, dans les périodes les plus compliquées de ma vie, notamment pour ceux qui étaient là il y a 3 ans et demi à peu près, où c'était un peu compliqué ici, à un moment donné, je me suis remis en question, j'ai dit, Seigneur, ok, j'arrête. J'arrête tout. Et vous savez, par contre, ce que j'ai dit, j'arrête, mais je trouverai une église. Parce que pour moi, et dans la Bible surtout, pour Dieu, parce que c'est pas important ce que je pense, mais ce que Dieu dit, c'est que pour le Seigneur, je ne peux pas m'imaginer vivre une vie de foi sans être uni avec des frères et des sœurs. Et je vous parle d'unité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est là où Dieu veut nous conduire. Et je vais vous parler de l'unité, pas juste de l'unité. Vous savez, on n'a pas... Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai suivi de près la Coupe du Monde. Surtout France-Belgique. Le message, il comprendra. Mais j'ai suivi la Coupe du Monde et on a parlé de ces deux équipes qui, à ce moment-là, se sont affrontées. Et ces deux équipes amies, moi, j'ai du sang belge dans les veines, donc je pouvais pas. J'étais un peu partagé, même si j'étais avant tout français. Mais je me serais réjoui de voir les Belges gagner aussi. Mais vous savez, ce qui ressortait de ces deux équipes, c'était une unité. Il y avait quelque chose, il y a comme une cohésion qui existait dans ces deux équipes. Et ce qui m'avait impressionné, notamment chez les Belges, c'était de voir à quel point ils étaient capables de réagir. C'était contre, je crois, la Corée, c'est ça ? Corée ou Japon ? L'un des deux, enfin, je sais qu'ils étaient asiatiques. Japon. Et leur capacité de réagir à un moment donné où il y avait une force d'équipe qui était là. Et j'ai vu la même chose dans l'équipe de France. Mais là, je ne vous parle pas d'une unité d'une équipe. Je vous parle de l'unité d'un corps, même si elle a de la valeur, l'unité, d'accord ? L'unité d'un corps, de la capacité d'être unis les uns avec les autres. Parce que l'Église n'est pas une association, l'Église n'est pas une équipe, l'Église n'est pas une société, l'Église est un corps. Et ça, c'est vraiment important de le retenir. Parce que dès lors qu'on comprend la dimension de corps, et on va le voir, on comprend la dimension de l'unité et la valeur de l'unité du corps. D'accord ? D'abord, je vais vous rappeler la vision reçue lors d'une réunion de prière. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, j'avais partagé cette vision. Et dans la vision, là encore, on était en train de prier, l'onction prophétique descend, et là, le Seigneur me montre quelque chose. Face à nous, vous, donc, et moi, vous imaginez ce mur-là. Allez, on se tourne vers le mur. Et face à ce mur, il y avait un mur en pierre qui ressemblait, vous voyez, au mur des Lamentations à Jérusalem. Vous voyez, pour ceux qui... on était face à un mur. Et on savait que ce mur devait être abattu. Alors, me demandez pas pourquoi, je savais qu'il fallait qu'on l'abatte. Et ce qui est fou, c'est que vous étiez tous... ensemble, et moi aussi, on a commencé, pour abattre ce mur, à prendre des pierres. C'était l'intifada de Betzalel. Et on a commencé à lancer des pierres sur le mur. Et puis, à un moment donné, j'avais la capacité de voir, une meilleure vue que ce que j'ai dans la réalité, d'aller voir l'impact des pierres individuelles de chacun d'entre vous sur le mur. Et je voyais que ça avait un impact, mais ça ne faisait que éclater en surface le mur, vous voyez ? Et là, à un moment donné, je me dis, mais que se passe-t-il ? Et donc, dans l'esprit comme ça, j'étais dans la vision, je recule, et que vois-je ? Je vois une catapulte avec une grosse pierre ronde comme ça. Mais la catapulte n'était pas armée. Et là, je recule, et puis je commence à vous appeler. Benoît, Jean-Luc, Simon, etc. Je vous appelle, hé, arrêtez de jeter des pierres, ça ne sert à rien, je vous disais. Et je vous disais, arrêtez de jeter des pierres individuellement, mais venez ensemble, nous allons soulever cette grosse pierre, nous allons la mettre sur la catapulte, l'armée, et je voyais ce qui allait se passer. Si ce peuple se mettait à s'unir, je voyais que la pierre allait être lancée et allait faire un énorme trou dans le mur qui était dressé devant l'église. Et là, je me suis dit, j'ai compris la dimension de l'unité. J'ai compris d'abord qu'on peut affirmer qu'une équipe, une église, une famille, un couple est puissant lorsqu'il est uni. Nous serons forts lorsque nous serons véritablement unis. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte aussi, et ça c'est une évidence, c'est mon expérience qui le parle, mais la Bible en parle aussi, c'est que la diversité, et ça, j'ai retrouvé cette citation, c'est un monsieur qui a dit ça, les problèmes viennent à cause de la diversité, leur solution se trouve dans l'unité. Notre problème, ce n'est pas un problème d'unité, c'est parce qu'on est différents les uns des autres. Et qu'on a. Alors, hier, on a suivi un enseignement là, pour les responsables que j'ai beaucoup apprécié. Et on a appréhendé la diversité. C'était vraiment très intéressant. Et je me rends compte en réalité que notre problème, c'est parce qu'on est différent. On a une vision, une perception différente. On a un passé différent, une culture parfois différente. Et notre problème à l'unité, c'est notre diversité. Non. Pour tous les couples qui se sont mariés, vous le diront, au départ, tu es élevé chez papa et maman, de chaque côté, et la grosse difficulté au départ, c'est d'aller mettre quelque chose en commun. Ils deviendront une seule chair, ouais, d'accord, dans le lit. Mais une seule chair dans la vision de la famille et du couple, c'est autre chose. Témoignage de Benoît. C'est Benoît, mais je l'appelle Benoît, ou cousin, ou c'est le beau jeune homme là-bas avec ses lunettes. La semaine dernière, il est allé au barbecue, je lui ai demandé l'autorisation de partager ça. Il m'a dit, parce que dimanche dernier, il vient me voir, il me dit, si tu savais Bruno, au barbecue, donc il était chef pour faire les sandwichs, je crois, hein, pour les distribuer, je ne sais plus. Et puis il me dit, c'est extraordinaire, les responsables des barbecues nous donne des directives. Et puis, donc moi, j'étais là pour faire appliquer les directives. Et puis, chaque personne qui était là voulait mettre son grain de sel. Non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Ce n'est pas qu'elles avaient tort, elles avaient une vision des choses peut-être pour améliorer le truc, mais il y avait quelque chose qui avait été décidé, et Benoît, à un moment donné, il a dit, stop, il faut qu'on fasse comme ça. Parce que si vous continuez à faire comme vous en avez envie, ça va être complètement la pagaille. Et il disait, lorsque, je crois que je peux répéter ce que tu as dit, lorsque chacun veut donner son avis, c'est là où les problèmes commencent. Les problèmes d'unité. Je suis fidèle dans ce que tu m'as dit, même si ce n'est pas les mots. Hein. De toute évidence, la diversité, rien que vous mettez déjà deux personnes ensemble, ça va poser un problème, parce que les personnes, elles sont forcément différentes. Et je n'ai pas écrit le message, messieurs les responsables, ou mesdames les responsables qui étaient là hier matin, je l'ai écrit avant hier. Alors j'étais réjoui de l'enseignement d'hier matin, parce que ça venait confirmer un peu ce que je pensais, ce que j'avais vu dans la Bible. Donc c'est un problème, la diversité pose un problème pour bâtir l'unité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Bon, maintenant, on va voir comment faire. Plusieurs, d'abord, réalités à comprendre. Vous connaissez ce passage de Corinthiens, c'est le passage où on parle de l'unité, justement. Alors, je sais, ce n'est pas une grande teneur théologique, ce que je vais vous dire, mais vous savez, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la théologie, c'est d'essayer à comprendre, de comprendre des choses et de les mettre déjà en pratique dans ma vie. D'accord? OK? Ici, on ne recherche pas forcément des trucs de haut niveau, mais on cherche à comprendre des choses et déjà les appliquer dans notre propre vie. Parce que nous ne serons pas jugés en fonction, et je dis souvent ça, en fonction de ce que nous aurons compris, nous serons jugés en fonction de ce que nous aurons appliqué dans notre vie. Ça, c'est vraiment très important. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Tiens, il parle de diversité, d'accord ? Diversité de ministères, donc de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Là, il y a tous des trucs soulignés qui sont des clés très intéressantes. Car comme le corps est un, waouh, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. C'est-à-dire que là, est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de nous dire ? Malgré le nombre que nous sommes qu'un seul corps. Ok ? Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Et là, vous comprenez l'importance de la nouvelle naissance et d'être rempli de l'esprit. C'est l'esprit qui nous amène à l'unité. Hein. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Un peu plus loin est écrit, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Ah, c'est très intéressant, on va le voir après. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Plusieurs remarques. Un, vous comprenez que le corps, nous devenons membres par le fait que l'esprit vient en nous. D'accord ? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et lorsque l'esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, c'est pour le rattacher au corps. C'est puissant ce que... Ça paraît peut-être évident, mais c'est puissant comme révélation. Ça veut dire que dès lors que je vis une véritable conversion, que je me repens, que je m'engage et que je suis rempli de l'esprit, c'est automatiquement pour m'attacher à mon frère, ma sœur, etc. La deuxième chose, c'est que là, j'ai la preuve évidente que ce qui est impossible parfois à l'homme de faire, c'est possible à Dieu. Parce que c'est possible de bâtir l'unité d'un corps malgré la diversité. Et vous en êtes l'exemple. Vous êtes tous jambes, mains, langue, œil, etc. Et l'Esprit Saint a pour mission, pour but de nous unir les uns les autres. C'est un rôle... C'est son rôle de bâtir ça. C'est son rôle de participer à l'unité du corps. Et quand l'Esprit de Dieu agit, c'est toujours pour que édifier pas un membre, mais le corps. Il le dit, nous avons reçu diversité de dons d'opérations pour l'utilité commune. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi, si je prophétise ou j'enseigne ou je prends soin de quelqu'un en tant que pasteur, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'utilité commune. C'est-à-dire que ma vision du service, c'est pour vous. Ma vision des dons que j'ai reçus, c'est pour vous. La vision que j'ai lorsque je fais quelque chose et que je réussis quelque chose, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, pour l'utilité commune. Et je peux vous dire que là, déjà, il y a matière à travailler. Parce que souvent, on tire gloire et bénéfice de ce que nous avons reçu de Dieu. Soyez humbles et reconnaissez-le. Alors, comment bâtir l'unité ? Ce n'est pas le rassemblement de personnes qui va constituer un groupe, mais d'abord l'objectif commun. Par exemple, je me marie avec ma charmante femme que j'aime. Et lorsque je me marie, au départ, j'avais un but. Nous, on a toujours voulu, je vous expliquais, toujours voulu une maison prête à accueillir. Parce qu'on aime la bonne table, on aime le bon vin, on aime avoir des gens à la maison. On aime passer du temps avec les gens dans leur relation. Lorsque mon épouse, bon, c'est surtout, elle aime bien la déco, vous voyez ? C'est une femme qui aime bien décorer, etc., etc. Bah, attends, chérie, sois humble. Elle gonfle la poitrine comme ça, c'est pas bien. Donc, dans tout ce que nous avons fait, à chaque fois que nous avons été dans une maison, on n'en a pas eu 36, mais quand on est rentré dans une maison, on est rentré avec cet objectif que la maison soit vraiment accueillante chez nous. Vous comprenez ? Imaginez un instant que mon épouse ait cette vision-là, que moi je dis, moi, tout ce que je veux, chérie, c'est avoir une maison où quand je rentre à la maison, c'est de pouvoir regarder un film et être seul à la maison, récupérer mon travail, etc. Automatiquement, l'objectif qu'elle a et que j'ai sont différents. Et automatiquement, ça va poser des problèmes. Un, pour l'achat des meubles. Deux, pour l'organisation des pièces. Moi, par exemple, si j'aime bien le cinéma, je vais me mettre une pièce plutôt où je vais pouvoir me trouver dans le noir avec grand écran, etc. Ma femme, par exemple, si elle dit « Non, la télé, ça ne sert à rien puisqu'on veut recevoir... » Vous comprenez ça ? On va automatiquement avoir des dissensions sur les choix que nous allons faire. Or, si tu veux d'abord être uni, tu dois avoir un objectif commun. C'est-à-dire que tu dois, en tant que corps, être capable de te dire « Suis-je d'accord avec la vision qui est accordée ?» Si tu ne l'es pas, pose-toi la question. Je suis clair ou pas ? Vous comprenez bien ? Personnellement, moi, ici en tout cas, la vision que nous avons, c'est que chacun devienne mature en Christ. Ça veut dire que dans ce que nous faisons, dans ce que nous allons faire dans les projets, nous souhaitons que les hommes soient vraiment des hommes, des maris, des pères. Nous souhaitons que les femmes soient des vraies mamans. Nous souhaitons que chacun puisse avoir le caractère de Christ formé en lui ou en elle. Vous comprenez ça ? Et donc, automatiquement, derrière, c'est quand tu as cet objectif-là et que tu dis, par exemple, je dis, on a eu une réunion hier avec les différents responsables de cette communauté. Le but était d'apprendre à travailler ensemble. OK ? Donc, automatiquement, tu vas te mobiliser pour y aller. Si ton objectif est celui-là, tu dis « Oui, j'ai vraiment besoin d'être un responsable qui est capable, qui va apprendre à travailler avec les autres. Donc, je me mobilise pour y aller. » Vous comprenez ? C'est vraiment intéressant, ça. Parce que si tu n'as pas cet objectif-là, tu restes chez toi ou tu vas à la braderie. Vous comprenez ? Ensuite, pour les autres. Ici, on a reçu... de la part de Dieu, mais c'est toutes les églises ont reçu cet appel. Hein. Bien que, vous allez voir, pour les autres, c'est sauver les âmes et en faire des disciples. C'est pour ça qu'on a adapté nos cultes. Depuis un an et demi maintenant, deux ans même, de travailler sur le sujet, de voir comment adapter nos cultes, de faire en sorte que les personnes nouvelles puissent se sentir à l'aise tout de suite, ici. Et puis, d'en faire des disciples. Donc, pas simplement le dire « Repends-toi, c'est bien », mais derrière, de les amener au baptême, et derrière, qu'elles soient remplies de l'Esprit, que derrière, elles puissent reconnaître ce qu'elles ont de la part de Dieu pour entrer pleinement dans leur destinée. Imaginez un instant maintenant que parmi vous, ici, ça c'est la vision de l'Église, et puis que parmi vous, il y ait des personnes qui disent « Nous, ce qu'on veut, dans nos réunions, le dimanche matin, c'est juste passer un petit temps ensemble, bien tranquille. Et je ne dis pas que cette vision est mauvaise. Je dis qu'elle est différente de la vision qui a été donnée à cette église. Ça va poser problème. Parce que dès lors que tu vas commencer à changer les choses au niveau de la louange, au niveau de l'accueil, au niveau de... Vous comprenez ? Ça pose des problèmes. Parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Nous, on veut juste passer un bon petit temps le dimanche matin entre 10h et midi. Donc, tu ne peux pas bâtir l'unité si tu n'as pas un objectif commun. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais ? Bon, alors, je continue. Point numéro 1, on a avancé un peu sur le terrain, c'est bien. La structure et les actions de l'Église correspondent à la vision donnée par Dieu. Forcément, ce que tu vas faire, ce que tu vas organiser... va dépendre de la vision. D'accord ? Si tu veux juste passer un petit temps ensemble ici, bah l'organisation de ta pièce, ça va être, tu vas mettre des fauteuils, tu vas mettre, je sais pas, des petites lumières sympas, ça va être cocoon, et tu vas passer 2 heures tranquille. Mais si tu te dis, moi, je veux que dès que les personnes entrent, je veux qu'elles soient bien reçues, forcément, je vais organiser les choses pour que les personnes soient accueillies dès le parking, par exemple, ou dès l'accueil. Comprenez ça ? Donc, les actions, c'est l'objectif qui conduit à mener des actions. Et vous savez, moi, je le vois dans, dans ma vie professionnelle. Souvent, les gars, j'ai un problème, par exemple, le matin, j'expose le lundi matin, bon, les gars, il s'est passé ça ce week-end, et le gars, il dit, il faut faire comme ça. On est toujours en train de dire, c'est comme ça qu'on doit faire, garçon. Vous avez déjà remarqué ça ? Il faut faire comme ça. Mais les gens se posent rarement la question, et pourquoi on fait ça comme ça ? Je vous ai expliqué une expérience. Dans le temps, j'ai travaillé dans la chimie, et il y avait un gars, il connaissait son installation par cœur. Et à l'époque, ce n'était pas l'époque des ordinateurs, c'est pour vous dire l'âge que j'ai. Hein, je suis très vieux. Ouais. Et le gars, c'était des enregistreurs comme avec des plumes et des couleurs, vous voyez. C'était des trucs comme ça. Et je me souviendrai toujours, c'était à pleurer de rire, mais j'étais mal à l'aise. On a un nouveau directeur d'usine. On avait un petit problème. Bon, il était venu voir sur le site. Moi, j'étais le chef d'équipe. En fait, j'étais responsable de la salle de cœur. Et puis, je vois le directeur poser la question au gars. Il dit, monsieur, je vais taire le nom, on ne sait jamais s'il écoute. Monsieur, comment se fait-il que ça se passe comme ça? Vous savez, bon, il était des Flandres avec un accent bien prononcé. Il dit, bah, monsieur le directeur, vous allez voir, la plume bleue, elle va déchante, et le rouge, elle va monter. L'autre, il a regardé, il a dit, mais c'est quoi ce truc ? Le gars, il savait comment se passaient les choses, mais pas pourquoi elles se passaient. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il avait beau avoir une expérience qui était ce qu'elle était, mais il ne savait pas pourquoi les choses devaient se faire. Alors ça vous fait peut-être sourire, l'expérience de ce gars. Mais souvent, c'est comme ça qu'on doit faire. Pose-toi les questions, pourquoi tu fais les choses dans ta vie ? Pourquoi tu pries ? Souvent, on a enseigné aux gens, c'est comme ça que tu dois prier. Mais on oublie de leur dire, pourquoi tu dois prier ? Et l'Église a déformé les gens. On a déformé les disciples. Donc, moi, je vous invite à faire cette semaine, posez-vous la question, pourquoi vous faites les choses ? Qu'est-ce qui vous motive à faire les choses ? En tant que personne, qu'est-ce qui te motive à faire les choses en tant que couple ? Ben, on a toujours fait comme ça. Oui, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Et pose-toi la question. Ici, nous nous posons la question. Notre objectif est comme ça. Pourquoi on fait les choses aujourd'hui ? Pourquoi on a mis un accueil ? C'est parce que le pourquoi, c'est parce que les gens ont besoin d'être accueillis. Et vous savez, derrière, le comment, qui est source de division, dans les familles, dans les couples, disparaît. Souvent, c'est comme ça. Non ? Si je suis d'accord sur l'objectif de ma maison, qu'elle soit un lieu d'accueil, mais je ne vais plus me poser la question, je sais que ma femme a reçu un don dans ce domaine, j'exécute, peint de telle couleur. Ok, chef. Non, mais c'est vrai. On rentre à Leroy Merlin avec mes idées, on ressort avec ses pots de peinture. C'est souvent comme ça que ça se passe. La structure, où le rôle et les responsabilités de chacun sont donnés. Il y a un problème, par exemple, Moïse, alors ça c'est vraiment extraordinaire dans Exode chapitre 18, 13 à 26. D'ailleurs, c'est marqué sur le site de notre église. Moïse, vous imaginez, il entraîne hors d'Égypte la vision de Dieu du ministère de Moïse, c'est tu prends ce peuple qui est esclave, tu le ramènes dans le désert, je vais me révéler à eux, je vais leur donner des lois et tu les amènes jusqu'en terre promise. C'est le ministère de Moïse, c'est l'appel de Dieu. Dieu, Moïse connaît l'objectif de Dieu. Un peuple esclave, un peuple libre. C'est l'objectif, d'accord ? Moïse, donc il arrive dans le désert. Bon, déjà, avant le désert, c'était pas facile. Une fois dans le désert, à cause de leur problème de... peut-être de leur vision des choses. Le peuple se rebelle à plusieurs reprises. Moïse, il est complètement perdu. Et puis, un beau jour, Moïse est en train, il est sur son siège, là, et puis il reçoit chacun. Je vais me mettre là, parce que tu t'imagines, je suis assis là. Il est assis, et du soir au matin, le peuple vient et commence à partager tous leurs soucis. Ouais, mon voisin, il fait du bruit la nuit... sort en discothèque, il rentre, il fait du bruit, etc. Moïse dit, bon, appelle-moi ton voisin. Il réglait tous les problèmes comme ça. Et puis Jéthro, son beau-père, arrive, et il dit, mais là, c'est vraiment extraordinaire. Et j'aime ça, parce que Moïse, il est écrit de Moïse que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Très intéressant. Et là, Dieu ne lui a jamais rien dit. Vous n'êtes jamais posé la question ? Enfin bref, moi je me la pose. Et puis, il faut... qu'un homme, qui est le beau-père de Moïse, vienne et lui donne ce conseil-là. Un, ce n'est pas parce que tu as une relation avec Dieu que tu as toute la révélation. C'est que souvent, dans le corps, il y a quelqu'un qui va venir te donner un conseil. Et même quelqu'un qui n'est pas forcément du corps. Jéthro était un peu extérieur à tout ce qui s'était passé, parce qu'il est écrit dans Exode 18 que Moïse lui a expliqué tout ce que Dieu avait fait pour le peuple. Et ça nous amène vraiment à une grande humilité. C'est-à-dire que qui peut se targuer de tout recevoir ? Personne. C'est-à-dire que chaque pasteur ou leader, enfin, peu importe comment on les appelle, responsable d'une église, ou responsable d'un pôle, ou responsable de famille, ou mari ou femme, a besoin parfois d'un conseil extérieur. Le problème, c'est que là, on a une attitude ici de Moïse qui est ultra humble. Il pourrait se dire, n'oublie pas que Dieu me parle comme un homme parle à son ami. Et il accepte le conseil de Jéthro. Le problème, c'est que nous, on n'est pas Moïse. Et que souvent, quand quelqu'un veut nous donner un conseil, hé garçon, passe ton chemin. Tu comprends, ça fait 30 ans que je suis converti maintenant. C'est pas vrai ? Bon, je suis le seul alors. Regardez ce que Moïse. Moïse, lui, est appelé à prendre du temps avec le Seigneur, à enseigner les ordonnances et les lois, faire connaître le chemin à suivre pour atteindre l'objectif. Le problème, c'est que Moïse était en train de s'épuiser, mais le peuple s'épuisait à faire la queue. Comme disait Danny Boone, si vous arrivez à la poste le matin à 9h, vous en sortez à 18h. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui travaillent à la poste. Ouf. C'est une fois que j'ai dit, je sais. Parce que on va à Paris visiter, on va dans une agence à l'Isle-Adam pour visiter, c'est un petit appartement, mais tu le laisseras, c'est pas grave. Et puis, on sort avec le jeune homme qui doit nous faire visiter les appartements pour Timothée Ophélie à l'Isle-Adam. Et puis, il me dit, vous êtes garé où, monsieur ? Ben, regardez, moi, je suis garé là-bas. Regardez, je suis garé à la Parisienne. Il me dit, ben, moi, je suis garé là, 75. L'immatriculation. Et là, j'ai reçu un coup de pied dans le mollet de qui vous savez. Bruno Lagaffe. Enfin bref. Donc, il faut communiquer sur les actions. Il devait communiquer sur les actions à faire. Vous comprenez ça ? C'est que parfois, on pense qu'on sait ce qu'on doit faire. Et on a des difficultés, surtout... Bah, on a entendu... on est des Gaulois, cette semaine... Hein. Surtout nous, on pense qu'on a toute la vérité. Or là, Moïse, il communique sur les actions à faire pour atteindre la terre promise, et il choisit ses collaborateurs et leur délègue l'autorité. Et la structure a été bâtie pour que tous grandissent. Vous comprenez, les gens s'épuisaient, ils ne grandissaient pas. Pendant tout le temps qu'il faisait pour la queue, Moïse ne priait pas, Moïse n'organisait pas, Moïse ne faisait rien, vous comprenez ? Et tout le monde s'épuisait. Alors que le but, c'était pas de passer 100 ans à faire la queue, c'était d'avancer jusqu'en terre promise. Et tout a été fait comme ça. Et la sagesse de Dieu, c'est d'avoir envoyé Jéthro auprès de Moïse. Donc, deuxième point. Donc, premier point, vous retenez, c'est quoi ? J'ai un pense-bête à la fin, mais je vous rassure. Le même objectif. Un, la structure doit correspondre et les actions doivent correspondre à l'objectif. Autrement dit, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne sert pas à atteindre l'objectif, jetez-le, tri sélectif. Ça sert à rien, ça. Comprenez ? Ensuite, trois, tous doivent comprendre que l'unité n'est pas l'uniformité. Alors, j'en fais l'expérience ces derniers temps dans ma vie personnelle où on m'oblige à faire des efforts parce qu'on dit que l'harmonie, c'est d'être tous pareils. Voilà, dans ma vie personnelle, comme ça, il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à faire ça. Donc j'aurais répondu, l'harmonie, c'est justement d'amener la diversité à faire des... Ce qui est harmonieux, c'est quand plusieurs couleurs sont ensemble et puis qu'elles donnent un bon résultat. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Regardez, diversité de dons, diversité de ministères, diversité de... Mais un corps, avec plusieurs membres. Le problème qui nous guette, le danger qui nous guette, c'est lorsqu'on veut faire des gens, des disciples, des gens comme nous. Vous avez déjà remarqué ça ? Tu dois être comme moi, tu dois penser comme moi, tu dois faire comme moi, tu dois prier comme moi, tu dois prophétiser comme moi. Les premières fois où je prophétisais, quand j'étais jeune, je suis arrivé dans une église où il y avait une onction prophétique. Hein. C'était même à la limite, ça fusait tous les dimanches matins. Et j'ai appris à prophétiser à côté d'une personne. Et quand les premiers temps que je prophétisais comme la personne prophétisait. Je cherchais à imiter. Mais ce n'est pas une bonne imitation. Dieu m'a donné une personnalité que je dois développer, un caractère que je dois développer en Christ. Le danger qui nous guette, c'est de vouloir d'être comme les autres, mais aussi nous voulons être uniquement avec des personnes qui pensent comme nous. Avez-vous remarqué ça ? Pourquoi ? Parce que c'est confortable. C'est super sympa, hein ? Oh tiens, David est d'accord avec moi. Oh ben... Viens boire un verre, David. Ah, oh, puis on s'aperçoit qu'on a plein de points communs. Bah, viens manger. Et puis, je vais établir une relation exclusive avec David. Et puis, je vais en oublier les autres. Vous comprenez ça ? Très intéressant. Et c'est comme ça qu'après, dans les églises, il y a des clans. C'est comme ça qu'après, dans les églises, vous voyez des gens, vous avez des groupes de personnes qui pensent entre elles. Et le problème, c'est qu'un jour, ça, quand on fait ça, et je vous dis, je pèse mes mots, parce que je l'ai vécu en tant que personne, en tant que pasteur, c'est qu'un jour, ce groupe de personnes, parce qu'ils pensent comme eux, va se liguer soit contre l'autorité, soit contre un groupe d'autres personnes. Et ça crée automatiquement des divisions. N'oublions jamais que l'objectif commun, c'est ça notre priorité. Le quatrième point pour comprendre, il faut comprendre quelle est notre place dans le corps. Si je posais la question ce matin aux personnes, à vous, ou aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu comprends l'importance ? Si je te disais, qui est indispensable ici ? Tu dirais, ben toi Bruno, puisque tu es le pasteur. Ok ? Bon, les indispensables, non mais c'est souvent ce qu'on entend, hein. Et le pasteur, il faut qu'il soit là, hein, sinon ça ne va pas. D'accord ? Mais si je commence à vous poser la question, vous direz, ben moi, si je ne suis pas là, ce n'est pas grave, en fait. C'est pas vrai ? Alors que tous, autant que nous sommes indispensables. Vous savez, je connais quelqu'un qui a des problèmes au niveau, il a une... C'est quoi les glandes ici ? Enfin, je ne suis pas médecin, mais vous savez ce qui lubrifie les glandes ? Lacrymales. Cette personne a des problèmes, elle a ces glandes qui ne fonctionnent plus. Vous savez que cette personne, je ne sais plus tous les combien, elle passe sa vie à s'humidifier. Une petite glande de rien du tout, qui peut empoisonner la vie de quelqu'un. Alors tu es peut-être une glande lacrymale, mais tu es indispensable à la bonne vie du corps de Christ. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et si Dieu t'a placé ici, c'est parce que le corps en avait besoin. Et si tu te sens appelé à venir ici ou à rester ici, à travailler ici, c'est parce que c'est pas, bien sûr, c'est pour que tu puisses comprendre ta destinée, mais c'est parce que le corps en a besoin ici. Tous autant que nous sommes, nous avons besoin des uns des autres. Et c'est un mensonge de croire que tu peux être, si je peux dire, comme une prothèse, vous voyez ? Voilà, j'ai un bout de doigt là, c'est une prothèse, je l'enlève et je la remets. Non, tu es membre, tu n'es pas une prothèse. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Vous imaginez si on était tous le nez ? On serait un gros nez. Comme Cyrano de Bergerac. Quelle péninsule ! L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Il y a plusieurs obstacles à cela. Je l'ai dit, quand tu veux ressembler à quelqu'un d'autre, tu es ce que tu es et Dieu te veut tel que tu es. Croire que je ne suis pas, croire que ce que je suis ou que je fais n'est pas indispensable, c'est faux. C'est faux. Vous connaissez l'histoire de dans cette église, dans les années 60, je crois. Pendant, je crois, 30 ou 40 ans, tous les dimanches matins, il y avait un monsieur qui venait allumer le chauffage, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la clim ni le chauffage central. Le gars venait allumer le poêle à bois tous les dimanches matins, sans rien dire. Sans rien, ça a de la valeur ça aux yeux de Dieu, vous savez. Il ne s'est jamais glorifié. Tout le monde avait bien chaud en arrivant au culte le dimanche matin. Un beau jour, cet homme vieillit, il meurt. Le dimanche suivant, l'église était comme un frigo. Et ce jour-là, les gens se sont rendus compte de la valeur de cet homme. Le sentiment de rejet ou complexe d'infériorité. Ah, mais je suis pas assez bon. C'est faux. C'est faux. Et alors, imaginez que mon bras soit un peu moins musclé que l'autre. Le problème, c'est que c'est pas mon bras qui n'est pas assez musclé. Ça, Dieu va s'en occuper. Il va dire, tiens, allez, prends des haltères et je vais te former. L'important, c'est d'être là. Comprenez ? Croire que je n'ai pas besoin de grandir. Le corps grandira et se fortifiera sans moi, c'est faux. Et je vous dirai même une chose, et je le dis souvent, et ça a été répété hier d'ailleurs par le pasteur Georges Land, c'est à travers les conflits, à travers les difficultés, c'est à travers ces choses-là que nous grandissons. Cinquième, comprendre l'importance de la communion et de la communication. Ce n'est pas pour eux que je prie, Père, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc c'est nous. Nous sommes les fruits du travail apostolique des premiers apôtres. Afin que tout soit un, il prie, Jésus est en train de prier pour nous à ce moment-là. Moi, je crois que les prières de Jésus sont exaucées. Ouais, vous êtes d'accord ? Donc quand il prie pour notre unité, c'est je crois qu'elle va être exaucée. Comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Regardez l'unité ici. C'est bien plus qu'une communication ou un temps de prière. C'est Jésus étant le Père, qu'il soit un comme toi, tu es en moi et que je suis en toi. Waouh, c'est fort, non ? C'est une union. C'est quelque chose qui est très proche. afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité ne peut se construire sans relation et communication. Donc bâtir l'unité, c'est prendre du temps ensemble. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais nous, on aime bien. Par exemple, les nouvelles personnes, en général, on essaye de passer un peu de temps avec elles. Alors, des fois, c'est un café, des fois, c'est de prendre du temps, apprendre à se connaître. Moi, j'aime bien prendre le temps, quand il y a un intervenant extérieur, c'est de prendre le repas avec lui et son épouse. On apprend à se connaître. Bâtir, c'est communiquer ses projets, ses besoins, ses joies, mais aussi ses frustrations. Souvent, on vous a dit, « Ah, ça, dis-le pas, parce que ça va créer de la division. » Et puis, vous avez des gens, pendant des années, ils vivent dans l'église. Ils ont vécu une frustration, deux frustrations, trois frustrations, quatre frustrations. Et ils vivent pendant des années dans la même église avec la même personne qui l'a frustré. Et puis, cette personne, au bout de quelques années, qu'est-elle devenue ? Elle est toute seule dans son coin, elle ne veut plus servir parce qu'elle est découragée. Je suis désolé de vous le dire, il faut avoir le courage de le faire, mais bâtir l'unité, c'est aussi exprimer ce qui ne va pas. Et moi, j'ai dû apprendre pendant toutes ces années, ça fait 10 ans au mois de septembre, qu'on est arrivé à Marcq-en-Barœul. On n'a pas changé, hein ? Surtout toi. Pendant 10 ans, j'ai appris pendant ces 10 années dans le travail pastoral à être capable d'écouter ce qu'on me disait et d'écouter les frustrations des autres. Parce que souvent, c'est moi qui les ai créées, les frustrations. Et puis, on comprendra aisément l'importance de vivre des relations ensemble. Les cultes, bon, c'est un peu plus compliqué pour vivre la communion. Mais on vit la communion de l'esprit, on adore ensemble. On se voit un petit peu, etc. Mais pour moi, ça ne me suffit pas. D'ailleurs, Jésus, il allait dans les synagogues, il enseignait, mais il prenait énormément de temps avec les gens. Il allait chez eux, il passait du temps avec eux. Dans les réunions de prière, RP, c'est pas RIP, repose en paix, c'est réunion de prière. Dans les petits groupes, ici on a 4 petits groupes. Et là, moi, je vais dans un des petits groupes et je sais que c'est un endroit où on peut vraiment partager les choses. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas encore compris ça. Aujourd'hui, je vis. Alors, dans ce petit groupe, c'est la particularité de ce petit groupe, on met une note sur 10. Ce mois-ci, j'ai 4 sur 10. Parce que, bon, il y a ça qui va pas. Et après, on prie les uns pour les autres. Mais c'est génial, je trouve. Parce que on sait ce que l'autre a. Et quand, moi, j'ai entendu parfois des témoignages de personnes dans ces groupes de maison que je ne connaissais pas. Je connaissais pas leur situation. Et vous savez, quand je les vois le dimanche d'après, d'abord, j'ai prié pour eux dans la semaine, et le dimanche d'après, je les vois, je dis, est-ce que ça va mieux? Et la personne, elle dit, ah ouais, ben ça va mieux, il s'est passé ça, ça. Et je suis dans la joie, parce que Dieu a entendu mes prières. Et les repas, bien sûr. Donc, notre agenda est vide. Non, je plaisante. Si vous voulez nous inviter, n'hésitez pas. Non, je dis pas ça. Non, je plaisante parce qu'une fois, il y avait une vente de chocolat et j'ai dit que je le referais plus. J'ai dit surtout, j'aime beaucoup les Toblerones. Vous vous souvenez ? Il y a 4 ou 5 personnes qui m'ont ramené des Toblerones après le culte. J'avais honte. Je peux vous dire, j'avais honte. Je les ai mangés quand même, mais j'ai eu honte. Ensuite, comprendre l'importance de la communication, de la communion. Le cadre d'une bonne relation et communication. Être humble. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est que l'unité, l'humilité, vous écoutez le message de la semaine dernière. Se pardonner réciproquement. Eh oui. Eh oui, vous êtes imparfait. Moi aussi. Hein ? Qui a dit oui ? Trouver un espace où l'on peut se parler, ou trouver une personne de confiance. Ne dites pas, je suis seul, il n'y a personne qui m'écoute. C'est faux, surtout dans cette communauté. J'ai toujours vu des personnes qui ont été entendues. Et le jour où vous me dites, je n'ai pas été entendu, vous avez un dernier recours, c'est de venir me voir. Et on vous écoutera, et on prendra le temps de vous écouter. Parce que là encore, c'est un problème. Il y a des gens qui vivent avec leur frustration, avec leur souffrance, avec leurs difficultés, et qui ne les partagent jamais. comme s'il ne pouvait pas le dire. Mais c'est faux. Vous trouvez une personne de confiance. Dans cette église, dans cette communauté, il y a quelqu'un automatiquement à qui vous pouvez faire confiance. Ne pas rester focalisé sur ses frustrations, je l'ai dit, pensez corps et non individuel. Ok, à un moment donné, il va falloir dire, ok, je laisse tomber ces frustrations. Je pardonne et je commence quelque chose de nouveau. Et savoir affronter les problèmes et ne pas les enterrer. Alors j'ai un petit pense-bête, non pas que je pense que vous soyez bête. Je l'ai dit parce que je dis pense-bête, mais ils vont penser tout de suite que je les accuse. C'est pas vrai. Pense-bête, ce pense-bête c'est d'abord pour moi, pour me rappeler tout ce que je viens de vous dire. Un objectif commun. Donc la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, c'est Eddie Wally qui viendra, mais dans 2 semaines, c'est Geoffrey, et dans 3 semaines, je vais rappeler la vision, pourquoi on met les choses en place, etc. C'est très important. Je sais, c'est pas du travail de, c'est pas une prédication propre à en parler, mais ça me paraît important de rappeler de temps en temps là où on va. D'accord ? Donc un objectif commun, une structure des actions qui correspondent à cet objectif, rejeter toute idée d'uniformité, trouver notre place dans le corps et prendre du temps ensemble et communiquer. Alors, je ne sais pas si ça vous a aidé, tout ce que j'ai préparé. Moi, ça m'a aidé. Et je prie vraiment pour que ce peuple-là soit un peuple uni. Ce qui n'est pas important, souvenez-vous d'une chose, ce qui fait la force d'un peuple, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas l'uniformité, ils ont tous, c'est l'unité. Regardez ce que Jésus a bâti pendant 3 ans avec ses disciples et l'impact que ça a eu et que ça a encore aujourd'hui. L'unité. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour travailler à l'unité de l'Église. Et je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour que cette Église ou que l'Église en général soit unie. Alors, être unie, ce n'est pas faire des compromis. Entendez-vous bien cela. Mais être unie, c'est avoir le même objectif, ensemble. Il y a des promesses. Je vais vous les rappeler dans 2-3 semaines. Il y a des promesses que tu as faites à cette Église et qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Mais je pense qu'on n'en est qu'au début. Voilà. Souvenez-vous ce qu'un disciple doit être. Il doit se repentir avec un cœur humble. Il doit s'engager, mais pas s'engager pour un jour, s'engager pour la vie. Il doit être rempli de l'esprit. Sa vie ne peut plus être la même qu'avant. Ce n'est pas possible. Si votre vie est la même qu'avant, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Voilà. Et enfin, ce disciple ne peut vivre que s'il est attaché au corps. Je dis tout le temps, des gens qui ont quitté cette église, oui, mais je l'ai toujours dit, vous quittez l'église, mais s'il vous plaît, allez dans une autre église. Allez dans une autre communauté. Certains ont écouté, d'autres non. Ce que je veux dire par là, c'est que si je coupe mon petit doigt ici, c'est les envahisseurs, hein, vous savez, qui avaient le doigt comme ça, pour les plus âgés. Si on coupe le petit doigt et que je le jette dans la pièce, mon corps va souffrir. Bon, l'auriculaire, ça sert à se gratter l'oreille, apparemment, d'où son nom. J'aurai des problèmes pour me gratter l'oreille, ok. Mais le petit doigt là-bas, il va pourrir. Tu ne peux pas imaginer sortir du corps et croire que tu vas vivre. C'est faux. C'est un mensonge. Aujourd'hui, vous savez, il y a plein de personnes qui disent « on peut vivre en dehors de l'Église ». C'est faux. C'est un mensonge diabolique. Amen.